Voilà, nous sommes au Daf Chaf Amud Alef. C'est la suite de la Mishnah Daf Yutret Amud Bet. D'ailleurs, dans la présentation de Ran, on remarque que cette Mishnah était rattachée à la précédente. On a vu en début de Mishnah Daf Yutret Amud Bet deux demi-phrases. Stam Nedarim Lachmir, puis ensuite Pirusham Lehakel. Stam Nedarim Lachmir, on avait le développement qui s'y rapporte tout au long de la Mishnah Daf Yutret. Maintenant arrive le développement de Pirusham Lehakel. Alors je rappelle, Stam Nedarim Lachmir, c'est un principe que quand quelqu'un a dit un terme qui peut s'entendre comme ceci ou comme cela, on retiendra le sens contraignant. Ça veut dire que on estime qu'il a certainement voulu interdire quelque chose, et donc ça devient un neder vadaï. C'est comme ça le din, en tout cas d'après certains rishonim, ça se traduit par neder vadaï. Et là, dans la Mishnah, on nous parle de quoi? De pirusham lehakel. Que veut dire que s'il a été mefaresh, alors on peut faire la kula? Ça veut dire que l'homme s'est repris, s'est expliqué. Il a laissé le flou planer quelques moments quand il a dit son vœu. Alors, on ne savait pas si son intention, c'était Troumat Alishka ou bien Troumat Goren, par exemple. Alors, nous, on va se dire, ben, c'est un éder. Mais tout de suite, il se reprend et il explique. Il précise que j'avais l'intention Troumat Goren. Troumat Goren, ce n'est pas un vœu. C'est Matvis Bedavar à Assour, ça ne vaut rien. Eh ben voilà, il n'y a pas de vœu. Et on lui fait confiance, c'est ça le chidouche. Qu'il est à même de s'expliquer et on tiendra compte de ce qui va finalement clarifié. Alors, c'est le sujet qu'on trouve dans la Mishnah. Mais la Mishnah nous présente ce din avec des exemples, encore une fois. Mais des exemples, pas ceux auxquels on pouvait s'attendre. Nous, on se serait attendu que la Mishnah reprenne tous les exemples de la Recha et qu'elle nous dise que si néanmoins, même sans les reciter, qu'elle nous dise, si néanmoins il s'est expliqué que j'entendais Terumat Goren et pas Terumat Lishka, alors c'est pas un vœu. Or, la Mishnah cherche des exemples un peu plus extravagants. Par exemple, Nadar Becherem, on est là au Daf Chaf Amud Alef, en haut de la page. Nadar Becherem, Vamar, lo Nadar, Tiela, Becher, Moshel Yam. Cherem, c'est comme on a vu, possiblement, Cherem Bedekabait. Et si c'est le cas, si telle était l'intention, ça veut dire tu rends l'objet Ekdesh. Enfin, tu es Noder, cet objet, comme Cherem, comme ce qui est Ekdesh. T'es Matpis, Bedavar, Hanador. Ce pain devient assourd par Neder. Mais juste après, il se reprend, il a dit « L'onadarti la becherem shel yam ». Mon intention, ce n'était pas « cherem du bedekabait ». Mon intention, c'était le filet de pêche, qu'on appelle aussi « charamim »,« metsudot vacharamim ». Ou bien, il a fait un vœu « bekorban ». Il a dit « kikarze alai korban ».« Ke korban ». Et après, il se reprend, il dit « l'onadarti la bekorbanot shel melachim ». Mon intention, c'était que les cadeaux qu'on fait à des rois, qui s'appellent aussi Korban des fois. Ou bien, Areatsmi Korban. Je me rends, moi, comme Korban vis-à-vis d'un tel. Ça veut dire, c'est comme s'il dit, je deviens Sourbana pour un tel. Vamar Lonadarti, après il se reprend, je n'ai fait de vœux, et là, Etsem Shinartili, Liyot Noderbo. Que le petit os. Un os que j'ai laissé chez moi à la maison de côté pour faire ce genre de vœux. Parce que le mot Atzmi, ça veut dire ma personne, mais ça peut aussi dire le petit morceau d'os que je possède dans un tiroir. Et bien voilà, mon intention n'était que ça. Tout ça sont des choses un peu comme un peu tirées par les cheveux. Konam Ishtin et Nitli. Par un neder de Konam, ma femme est assoura de profiter de moi. Il se reprend, va mal, on a darti la bechti arishona. Mon intention, c'était ma première épouse, Shegirashti, que j'ai déjà divorcée. Mais mon épouse actuelle n'est pas concernée par ce vœu. Al-Kulan, sur tous ces exemples, en ishalin lahem. On n'a pas besoin de faire chez la tracham, le vœu est nul. Parce qu'il s'est expliqué, il a bien clarifié. Son intention, c'était quelque chose qui, finalement, ne rime à rien. Le petit morceau d'os, regarde le petit morceau d'os. Mais toi, t'es épargné, t'es pas sous le néder. Ou bien ta femme, c'est pas ta femme actuelle, c'est l'autre que c'est en affaire, etc. Donc s'il a réduit ou annulé son vœu par le fait d'avoir clarifié son intention, on le croit et du coup le vœu, on n'en tient pas compte. Ou on en tient compte à minima. Voilà. Vemni shalou. Et s'ils sont venus faire shelat racham, on shinotan ou machmirin alein, divrei Rabbi Meir. On les sanctionne. De quelle manière? On verra dans la Gemara. Et on est machmir alein aussi, on verra ce que ça signifie. Je peux déjà vous dire ce que le Ran explique. Déjà, pour votre information, le Ran ne se trouve pas sur place. Il est dans la fiutret à Moubet, ici vers le bas, parce que le Ran, il avait ses deux Mishnayot collés. Donc, c'est pourquoi il l'a commenté là-bas. Alors, que veut dire que on est Manishin, Machmirin et Manishin. Onshin, on les sanctionne que s'ils se sont permis ce que normalement ça pouvait être interdit par ce vœu, normalement, alors ils doivent observer l'interdiction pour une période équivalente. Supposons 25 jours, il s'est accordé la permission alors que si le vœu était vraiment adjugé, ce serait interdit. Donc 25 jours de transgression, monsieur, 25 jours, tu vas observer ce vœu. Tu vas t'astreindre pour 25 jours. Et Marmirin Alein, ça veut dire qu'on ne leur fait pas les facilités habituelles. Que si on doit les faire à Tarat Nedarim, on le fera par le biais d'un pétard et non pas Harata. Ces deux procédés, et pétard, c'est moins évident. Il faut qu'ils trouvent une circonstance par rapport à laquelle, s'il l'avait anticipé, il n'aurait pas fait son vœu. Ce n'est pas toujours évident. Et donc on lui dit non, on ne fait pas Harata, on ne fait que pétard. Livré Rabbi Meir, pourquoi ça? Mais tu m'as dit à l'instant que le Neder ne mérite pas de Shelat Racham, il est nul. Parce qu'il s'est expliqué, il a tout clarifié. Pirusham Leakel. Et maintenant tu me dis, attention, on n'y va pas facile. Quand on va lui faire un délai de restriction, il va devoir s'en tenir pendant une certaine période. Mais ce n'est même pas un Neder. Et en plus, tu me dis, la manière d'enlever le vœu, ce ne sera pas la manière facile. On ne comprend pas, mais la Gemara va expliquer. Chachamim nous disent deux choses. Ils ne sont pas en accord avec Rabbi Meir sur deux points. D'abord, on peut faire Atarat Nedarim sans avoir de délai pour le Honesh. On n'a pas besoin de les astreindre au Neder pour une certaine période, une période en durée équivalente à la durée de ce qui se sont accordés la permission. Il n'y a pas ce onesh. Et deuxièmement, pour la procédure, on peut faire appel à Harata sans pétard. Oui, la procédure facile. Umelamdi nota, néanmoins, leur apprend qu'edeshéloïnagou, de faire attention à ce genre de nedarim, qui ne récidive pas. Shéloïnagou, kaloudroj bindarim. Ne soyez pas léger en matière de nedarim. Ne balancez pas des vœux comme ça. Même que finalement, ce vœu, il n'est pas vraiment un vœu. Mais ne vous amusez pas à ça, c'est une pédagogie qu'on doit faire passer. Alors, ça va être mieux, on comprendra mieux avec la Gemara qui arrive. La Gemara tout de suite se demande, Hagufa Kashia, en elle-même la Mishnah se contredit. Amra, tu m'as dit d'une part, en Mishalim Laen, que on ne peut pas demander, on n'a pas à demander chez la Tracham sur un tel vœu. Pourquoi? Parce que le vœu est nul. Il s'est expliqué. Il a bien dit, j'étais noder juste le filet de pêche, pas ferem au sens de Hegdesh. Ve'adar tane, ensuite, j'enseigne imnishalou en shenotan, ou machmirin alein. Tu me dis ensuite que, avant de faire la tarat nedarim, on exige qu'ils observent ce vœu pendant une certaine période en tant que sanction, comme j'ai dit au nom du Ran. Et laquelle sanction? Période équivalente. Tu t'es permis 25 jours. Eh bien, tu t'astreindras 25 jours. Ou machmirin aléen, et on fait la chumra de ne leur accorder à Tarat Nedarim que par Harata et pas par Harata, mais par Pétar. Ça veut dire que ça requiert une Tarat Nedarim. Clairement, le vœu, il est donc adjugé. Donc, on se contredit dans cette Mishnah. Amara Viuda, Arikatani. Voici comment la Mishnah voulait enseigner. Les Kulan en Srikhin Sheila, ils n'ont pas besoin de Sheila. Bamedvarim Amorim et Talmit Racham. S'agissant d'un Talmid Racham, on dira qu'ils n'ont pas besoin de Sheila. Pas besoin de Atarat Nedarim. Aval be'amaret, c'est Balishael. Mais Amaret qui vient demander Sheilat Racham, bien sûr que ça requiert Atarat Nedarim, de un. Et de deux, on serre la vis. Que on shinotan ou machmirin alav, comme ça a été commenté jusque-là. Donc, on a compris. Le compromis, le juste compromis, ça dépend qui on a en face. Celui qui vient demander au Racham, s'il est lui-même Talmud Racham, On lui dit, t'as pas besoin de Shelat Nedarim, tu t'es expliqué. T'as bien dit que quand t'as fait Kikarze Alay Kherem, ça veut dire quoi Kherem pour toi? Ça veut dire un filet de pêche. Monsieur Anodin, c'est pas d'Avara Assour et Anandour, laisse tomber. C'est bon, t'as pas à t'en tenir à ce vœu. Parce que disent les Rishonim, Ran et Roche, le Racham, on peut lui faire confiance à 100%. Il t'a dit, j'étais mon intention, tu le crois, même que c'est un peu extravagant. Attends, quand les gens ils parlent de Haramim dans le contexte des Nedarim, mais Kherem, c'est emblème et c'est synonyme de Neder, comme toujours, on va dans les Mishnayot. Et donc, non, tu me dis, c'était juste le filet de pêche qui porte ce nom aussi. Donc c'est anodin. Ok, comme t'es un Haram, tu ne manges jamais, on te croit. Et on te croit, donc ton vœu, il est nul. Mais quand t'es à Maret, qu'on n'est pas tellement sûr de ce que tu vas nous dire, alors là, on s'en tient au vœu. Et si tu t'es cru permis pendant 25 jours, t'en as pas tenu compte, on te sanctionne 25 jours, tu observes ce vœu. Et après, quand tu demanderas chez la Tracham, on n'ira pas facile. On ne t'accordera pas avec Harata, faudra pétard. Voilà pour l'avis de Rabbi Meir. Et c'est ça le compromis entre les deux démarches. Tantôt, on lui dit, n'en tiens pas compte. Tantôt, oui, non seulement ça requiert Atarat Nedarim, mais en plus, comme on a dit, on serre la vis. La Gemara nous dit, Bishlama Mahmirin. Encore le sujet d'être Mahmir. Ça signifie que l'opatrina lebecharata. Qu'on ne va pas lui faire la facilité de lui accorder la Tarat Nedarim sur simple regret. S'il vient dire au Haram, je regrette complètement ce vœu. Ça existe. Non, pour lui, on ne lui accordera pas cette faveur. On lui accordera la Tara que s'il trouve une faille dans le Neder, un pétard. Qu'à la base, il prétend que le vœu a été fait comme par erreur. J'aurais su ceci, cela, j'aurais calculé cette conséquence, j'aurais pas fait le vœu. C'est ce qu'on appelle pétard. Eh bien, là, on aura besoin d'un pétard pour lui accorder la Hatara. Alors ça, on a compris que ce que Rabbi Meir nous dit, Mahmirin, d'accord. Et la Onshin, c'est quoi la sanction dont on parle? Et Redami, concrètement, comment elle se présente cette sanction? Kedetania, comment on a trouvé cette notion déjà présente dans une braïta? Mish et Nazar ve'avar al Nezirut, ou aussi quelqu'un il a fait un vœu de Nezirut. Et il a enfreint ce Nezirut. Enizkakino acheinogbo isur kayamim shenagbaen. On ne se présente pas à lui, on ne se rend pas disponible pour lui faire Atarat Nedarim. Il vient demander Atarat Nedarim, je ne peux plus tenir cette Nezirut, enlevez-moi ce vœu. Et alors il y a, normalement, dans certains cas, on peut lui accorder l'Atarat Nedarim. Mais d'emblée, on va lui dire, tu t'es permis de boire le vin 10 jours. Eh bien, 10 jours, tu observes la Nezirut. C'est vrai que normalement, on pourrait tout de suite trouver, s'il y a moyen de trouver une Atara, un motif pour faire la Atara, c'est tout de suite qu'on peut enlever le vœu. Eh bien non, tu vas t'astreindre 10 jours. C'est une sanction pour t'éduquer, à faire attention à un vœu. Achinokboisur, kayamim shenak baeneter. À hauteur des jours qui s'est cru permis, on lui astreint par son vœu, même si ce n'était pas nécessaire, minadin. Du vrai Rabbi Yehuda, Marabi aussi bamedvarim amurim, binezirut moetet. Si la nezirut, elle n'était pas très prolongée. Avant Nezirut Meruba, Dayo Shloshimyom. Mais si la Nezirut est prolongée, ça lui suffit 30 jours de pénalité. C'est-à-dire, si la Nezirut, c'était une Nezirut, disons, de 90 jours, et il s'est permis de boire le vin 90 jours. Et maintenant, il vient demander à Tarat 80 jours. Il demande à Tarat Nedarim. Alors, on lui dira, monsieur, tu dois supporter ton vœu pendant encore 30 jours. Il y a un forfait, il y a une amende forfaitaire, 30 jours, pas plus. Ça lui suffit comme onesh. Mais si, il s'est permis pour 12 jours, alors le Honesh, ce sera à hauteur de ce qui s'est permis, comme on l'a dit, ce sera aussi 12 jours. Mais dès qu'on dépasse 30 jours de transgression, entre guillemets, alors le Honesh ne dépassera pas les 30 jours, ce sera une amende forfaitaire. C'est l'idée de Rabbi Yossi. Point. Amar Rav Yosef. Rav Yosef dit, oh, il va amrer Rabbanan enis kakino. Puisque nos maîtres ont dit ici dans la Mishnah qu'on ne se rend pas disponible pour leur faire atarat nedarim dans ce genre de nedarim, alors, Bedina de Mizdakeke, un Bedin qui va, oui, se rendre disponible, c'est-à-dire, il intervient pour enlever le vœu, sans complication. Pourtant, on a dit qu'il ne fallait pas. Alors, qu'est-ce qu'il ne fallait pas? Il y a deux explications d'après Rashi. Enizgakin, de lui faire la Tara sans Kharata, sans pétard, avec simplement une Kharata. D'après le Roche, non, d'après Tosfot, Enizkakin, ça veut dire sans la sanction de l'astreindre un certain nombre de jours. Tu t'es permis de certains jours, ben autant de jours tu t'interdis. Alors si on lui fait la tara facile, c'est ça que ça veut dire, alors on est en tort. Un bedin de misdakeke lo avid shapir. N'agis pas bien. C'est pas comme ça qu'il fallait. Rav Chaim Yaakov Omer, mais j'aime t'inale, ce bedin, on le déclare benido parce que il n'a pas suivi les règles des Chachamim. On a dit qu'il faut être rigoureux. Il ne faut pas avoir une démarche facile de lui accorder vite fait la Tara ou bien sans pétard avec saint prarata ou bien immédiat sans délai de onesh. Alors, on n'est pas dans... Maintenant, qu'est-ce qu'il nous a appris exactement ? Chaura, tout est dit. Mais il ne fait pas bien. On a compris qu'il ne fait pas bien puisque c'est établi qu'il y a une façon de faire. Il faut savoir comprendre, je ne suis pas très clair exactement. Alors le rat nous donne son sentiment, c'est qu'on aurait pu croire que l'intention, quand les chachamim ont dit à Nizkakin, ça veut juste dire, on ne fait pas la démarche d'aller vers lui. Parce que normalement, quand quelqu'un il a un vœu, ce n'est pas recommandé de le laisser avec son vœu, même s'il veut s'en tenir. C'est une notion qu'on verra plus loin, que quelqu'un qui fait un vœu, le mieux à faire, c'est d'enlever le vœu. Mieux que d'être mekayem son vœu. Et donc... Peut-être le bedin a cette démarche d'aller vers la personne et de le conseiller. Eh bien, on va faire un tartet d'arim. Et là, non. Enizkakin. On aurait pu traduire ça ainsi que Enizkakin. On ne fait pas le pas vers lui. Mais si lui nous sollicite, pourquoi pas tout de suite ? Facile. Kamashmalan que non. Que on n'a pas à répondre tout de suite facile. C'est ça l'idée. Donc ça, ce serait peut-être la précision. En tout cas, d'après l'Oran. Maintenant. Rachamim amrim potrino petar.
Mais Shamtinan
Shamtinan, oui, on le met en édouille. Les Dayanim qui ont accordé facilement la Tara, oui, alors, ils sont en tort, on les met en édouille. Chachamim Omrim, Potrin lo Petar. Tanya, dans une Braïta, on a enseigné. Alors j'ai dit au nom du Ran que d'après Chachamim, Potrin lo Petar, ça veut dire on lui accorde la Tara de la manière. Facile, sans faire appel à pétard. Charata, oui, ça peut suffire. C'est ça que ça veut dire potrino pétard. Mimakom acher. Pourquoi ça s'appelle mimakom acher? Parce que charata, c'est quelque chose qui est une considération extérieure en éder. Maintenant, enfin, je regrette. Tandis que pétard, ça veut dire je trouve une faille dans le néder. C'est au niveau, à la base même, le néder, je me dis, mais j'ai pas pris en compte tous les aspects. J'aurais pris en compte cet aspect, j'aurais pas fait le vœu. C'est ça la force du pétard. Qui permet au Chacham de lever le vœu. Donc, quand je parle de Charata, c'est quelque chose qui est extérieur au vœu. C'est pour ça qu'on appelle ça Petar Mimakom Acher. Ainsi, Chachamim exprime qu'ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. On peut lui accorder la Tara par Charata. C'est ça, Potrino Petar Mimakom Acher. Et.
C'est
la...
Oui,
comment
Charata
Kol Sheken, le Petar. Oui, bien sûr.
Il y a marqué Mimakom Acher, hein.
Dans la Mishnah, oui, c'est écrit Potrino Petar, dans la Mishnah, faut revoir, oui, là on a abrégé. Ça c'est Chachamim abrégé Vechoulé. D'accord ? Alors, Tania dans une Braïta, Leolam Alteiragil bin Darim. La Braïta nous éduque à faire attention aux Nedarim, il ne faut pas s'y habituer. Chez Sofralim Ol Bishvot, parce que tu risques d'enfreindre pas seulement des Nedarim, mais même des Shevuot, comme ça Tosfot explique, et on a vu que Shvoa est plus Chamour. Le monde a tremblé quand Hachem a dit Lotisat Shema Hachem Elokei Halacham. C'est l'aspect de Chumra dont je vois par rapport à Nednarim, un daf plus haut. Ve'al Teiragil Etzel Amaret. T'habitues pas à fréquenter le Amaret chez Sofo Le'achil Chat Valim. Il est de nature à te faire manger tes veines. Lui, il n'est pas garanti au niveau de prélèvement en Eretz Israël. Et donc, t'habitues pas à aller chez lui parce qu'il risque de te faire manger du Tevel. Alteiragil etzel kohen amaretz. Ne sois pas habitué chez un kohen amaretz. Je sois faux. Le achilcha teruma. Temea. D'après une version. Il est de nature à te faire manger de la truma temea. Lui, c'est pas faire attention aux règles de tuma vetahara. Et la teruma qu'on lui donne, des fois, elle est peut-être temea. Et il te la sert. Même si t'es kohen, c'est très grave. Donc, ne t'habitue pas. C'est prendre des risques. Donc, voilà toutes sortes de choses qui sont des précautions par risque. Ça a commencé avec Neder et on passe d'un sujet à l'autre. Ve'altar besichai ma'isha, je s'offra la voli des niouf. Ne multiplie pas les paroles avec la femme. parce que ça peut te porter vers niouf, l'adultère. Ça veut dire, même quand on parle de choses sérieuses, utiles, avec une femme, il faut abréger au maximum. Il y a d'autres gmarotes complémentaires où on voit cette notion. Et donc, c'est ce qu'on nous dit. Et pourquoi ? Parce que, de fil en aiguille, ça rapproche, on ne peut pas savoir où ça peut amener. Et maintenant que la dernière mesure de précaution dans cette braïta, c'est ce sujet, alors ça fait un grand virage dans la sugya. On sort du sujet de Nedarim pour se concentrer sur ces sujets qu'on vient de voir, le dernier sujet. Alors avec des mimrot complémentaires, Rabbi Acha bar Rabbi Yoshia Omer, kolat sofe banashim sofe balide avera, celui qui est sofe normalement c'est observer de loin. Oui, sofe merachok en général. Donc ça veut dire qu'il observe, mais de loin, sofe balide avera. Et il finira par tomber dans l'avera. Parce que ça le tente et ça éveille en lui des tendances qui vont le conduire vers l'avera un jour. Et donc c'est ce que Chazal nous dit. Maintenant, il y a un chidouche dans ça, c'est ça que j'entends dans le mot de sofé. Sofé de loin, ça veut dire que la femme ne sait même pas qu'on l'observe. Et quand même, lui, ça va lui donner des tendances qui le porteront vers l'avéra. C'est pas un regard en face à face qui peut créer un lien, même sans ça. Ça veut pas dire que tout de suite il succombe, Chas v'Shalom, c'est pas. Mais même de loin, il croit qu'il y a rien du tout, et elle sait même pas, va savoir un jour où ça l'amènera. C'est ça que Razal nous précise. V'chol ha'mistakel ba'akeva shel isha, havyano banim shenan muganim. Celui qui regarde le talon, pas la chaussure, le talon du pied de la femme. J'ai traduit littéralement pour l'instant, mais ce n'est pas vraiment la signification. Tout de suite arrive le commentaire. Alors il aura des enfants qui ne sont pas muganim, qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas portés vers la tzniout, mais au contraire, qui seront comme, on va dire, dépravés. Pourquoi ? On va voir tout de suite. Mais Rav Yosef, d'abord les précisions. Rav Yosef nous précise, « Ubishto Nida », on parle de sa propre femme qui est Nida. Quand sa femme est Nida, on ne peut pas l'observer. Normalement, certaines parties du corps ne sont pas à exposer, même pas vis-à-vis du mari. Mais Rav Yosef, « Ubishto Nida », « Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Akeva de Katani, Bemakom Atinofet ». Ce qu'on a mentionné ici, le Akev, le talon, c'est une manière élaborée, comme Chazal ont l'habitude de parler, une manière décente, pour désigner des choses un peu plus. Alors là, ils n'ont pas voulu dire expressément « Makom Atinofet » qui désigne la Erva. Ils ont parlé du talon parce que c'est « Shumechuvan Keneged Akeva ». C'est en face de... Ça veut dire... pourquoi en face? Je ne sais pas si c'est en position assis, à genoux comme à l'époque, ou bien même debout, je ne sais pas. En tout cas, c'était une manière détournée d'évoquer Erva. Et que la femme, elle est habillée, bien sûr. Sa femme, elle est Nida, elle est habillée. Mais s'il regarde à l'endroit... Il vise les parties qui sont plutôt à éviter dans ce contexte-là, en tant que femme Nida, oublie, fait abstraction. Et donc, si il ne sait pas faire abstraction, alors là, ça peut lui coûter que les enfants seront banim shenam uganim parce que, disent les rishonim, mida keneged mida. Quand il est mistakel verva chez l'isha, c'est un yin de herva. Et donc les enfants aussi ne seront pas mouganim. C'est le Tosfot qui dit. C'est quoi? Et la mouganim, c'est de cette nature. Le défaut que ça occasionne aux enfants, il sera de cette nature, qu'ils seront portés vers Erva. Mais encore une fois, on n'a pas parlé de Stamisha. On a parlé de Ishto Nida et a fortiori Stamisha. Et Ishto Nida, c'est pas uniquement cette partie. En réalité, dans la Lacha, c'est retenu que toute partie couverte, normalement, doit le rester. Même vis-à-vis du mari, quand la femme est Nida. Le mari ne peut pas voir sa femme qui a les genoux découverts, par exemple. Ensuite, Tania, dans une braïta, s'est enseigné. Bavour, tiyayiratou alpenechem. Pourquoi il y a eu le matin de Torah aussi redoutable, aussi impressionnant? Oui, on dit même que par Chanish Matam, il y a eu tout ce décor qui était terrorisant. Pourquoi? Afin que vous ayez la crainte d'Hachem sur vos visages. Ce n'est pas uniquement vous avez la crainte, mais vous en êtes tellement imprégné qu'elle se remarque sur le visage. Zou boucha. Cette crainte qui se lit sur le visage, c'est ce qu'on peut appeler aussi la boucha. Que de manière naturelle, la personne, elle est dans une sorte de réserve. Et elle n'est pas de nature à oser trop facilement. Comme quelqu'un qui est trop porté sur la chitsoniut ou la... Voilà. Les vilti teretaou. Et ce, pour éviter... d'en venir à la faute. Par la boucha, Mais la mecha boucha mevia l'idée iratret, c'est grâce à la boucha que on arrive à iratret et on évite la faute. C'est-à-dire que la personne qui a cette nature d'être dans la mesure et la comment dire, je ne sais pas si c'est la honte par rapport aux autres. Je sais que certains expliquent comme ça que c'est la honte par rapport aux autres. Et si je suis de nature à me gêner, donc je ne vais pas faire des avérotes pour pas qu'on remarque que j'ai fauté. Je ne crois pas que c'est que ça, la notion de boucha ici. Ça se pourrait que c'est même la personne par rapport à elle-même. Pas je me gêne des autres, il y a des choses que je n'ose pas. J'ai une retenue naturelle, j'ai une pudeur et une réserve naturelle qui fait qu'on n'est pas porté ou on ne franchit pas le pas facilement. On n'ose pas. On n'est pas dans une démarche qu'on ose tout comme ça facile, comme d'autres. Alors ça, c'est une nature que les Bnei Israël ont gagnée au Har Sinaï. C'était l'effet précieux qui fait que les Bnei Israël ont iratret. Et c'est cette iratret qui se lit sur le visage, qu'on peut appeler boucha. Et c'est ça qui préserve de la faute. Mikanamru, de là on dit nomètre. Siman yafe badam, c'est un bon signe chez quelqu'un, chez Ubaishan. Parce que voilà, ça le préserve. Acherim, en plus d'autres disent, quand la dame amit bayesh, celui qui est de cette nature-là, lobimera ou chote, alors il ne faudra pas facilement. Michel no bochet panim, celui qui n'a pas la bochet panim, beyadoua shulamdu avotav al Sinaï. On peut se dire déjà que ses parents, ses avot, n'étaient pas au Har Sinaï parce que si la Torah nous dit que ce Mahamad, aussi impressionnant, c'était voulu pour qu'on ait, et donc c'est sûr que le résultat escompté était là, le Ham Israël était empreint de cette iratrette et cette boucha naturelle qu'ils ont. Et elle est héréditaire, ça fait partie de la nature même, comme on dit, ils sont Baishalim, Rahmanim, Gomle Chassadim. C'est héréditaire dans l'Ham Israël. Et qui ne l'a pas, tu te remets en question, est-ce que Bémet, il est affilié à ceux qui étaient là-bas, est-ce qu'il a des origines? Et peut-être ça voudrait dire que, va savoir, peut-être son arrière-grand-père était converti, mais il n'était pas au Har Sinaï. Parce que s'il n'a pas cette qualité héréditaire, eh ben, alors maintenant ça se pourrait que quelqu'un il l'a eu cette qualité héréditaire, mais il l'a bafoué facilement. On peut casser la boucha facilement, surtout à notre époque. Il suffit que quelqu'un il rentre un peu dans le monde léger de cette légèreté ambiante. Il n'a plus aucune boucha de rien. Et il suffit que quelqu'un s'habille comme aujourd'hui dans la rue, c'est fini. Il a cassé sa boucha naturelle. C'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle de quelqu'un qui n'a pas cette boucha naturellement de naissance. Alors là, tu te remets en question. Mais peut-être que ses origines ne sont pas du Har Sinaï. Ses avot n'étaient pas au Har Sinaï. Ensuite, Amar Rabbi Yochanan ben de Havaï. Arba advarim sarkuli malachei hasharet. Les Malach HaSheret m'ont fait part, m'ont livré quelques secrets. Ils m'ont dit que Chigarin mipne Ma'avian, pourquoi il y a des enfants qui arrivent boiteux, certainement de naissance, c'est pas il a eu un accident. Et comment, pourquoi, d'où ça vient? Mipne Shofrin et Shulchanam, parce que les parents, ils ont fait Afichat Shulchan. Ils ont inversé la table. La table, c'est un langage détourné pour parler de la femme au moment de l'union avec son mari. Alors c'est un lachon comme un machal. Maintenant, dans les rishonim, on peut le traduire. On voit ici, déjà dans le Mefaresh, qu'ils ont appelé ça Rashi, mais bon, ce Mefaresh ici, c'est écrit deux explications. Panim keneged oref. Shebaïn al nashoten shelo kedarkan. Sebia shelo kedarkan, ça veut dire que le rapport n'est pas fait par les voies naturelles. Donc c'est ce que Chazal les appelle souvent bia shelo kederer. Il y en a qui expliquent ça différemment, c'est ce que Rashi poursuit. C'est certainement l'Ishna Harina, Shofrin Shoshulchanami, les Malav ou les Mata. Au lieu que c'est l'homme qui est au-dessus et la femme en dessous, ben ils ont inversé. Et il y en a qui expliquent une troisième manière, c'est intermédiaire. C'est pas Mamash Biacheloke Derer, c'est par les voies naturelles, mais dans la position où la femme est à genoux. Et ça, c'est une sorte de souffrance pour la femme, où c'est amoindrir la qualité de la relation en termes de rapprochement, etc., puisqu'ils ne sont pas face à face, ce n'est pas préconisé par la Torah. Et si, d'une manière ou d'une autre, selon chacune des explications, ça a été ainsi fait, les enfants peuvent être rigarin, parce que mida keneged mida, comme ça ils disent les rishonim, ou bien parce qu'il a fait entrave à la norme et à la manière idéale à l'alpitora, ou bien parce qu'il l'a fait souffrir dans cette position, alors le onesh, c'est ça. Ensuite, alors je crois que c'est précisé de certaines sources que ça concerne la bia qui a permis de procréer. L'enfant conçu dans ce cadre-là peut être atteint de ce défaut parce que voilà. Ou bien encore autre sujet, ilémim, des enfants muets de naissance. D'où ça vient ça? Les malachim, ils disent mipnema avian, pourquoi ils arrivent comme ça? Mipne shemenash kinon l'automakom, parce que il y a un phénomène qui est une sorte de, comment dire, ailleurs ça s'appelle que c'est Baltechaketsu carrément, que d'embrasser à l'endroit de la herva, ça s'appelle Baltechaketsu. Donc comme ils enfreignent cela, alors ça porte atteinte à la bouche de l'enfant. L'enfant, il est muet. Charashin, miplema avian. Et cheresh, normalement, ça veut dire sourd et muet. Pourquoi? Parce qu'ils échangent des paroles, ils conversent au moment du tashmish. Qu'est-ce qu'il y a de si mal que l'homme et la femme parlent au moment du tashmish? On verra de quel sujet on parle. On parle surtout pas de sujet étranger au tashmish. On va voir le détail après, mais en tout cas, sujet étranger au tashmish, c'est interdit. Et différentes raisons sont avancées. Une des raisons, c'est parce que ça donne des fois à penser à d'autres femmes que sa femme. Quand tu es avec ta femme, tu penses qu'à elle. Et si dans la conversation, on en est venu à parler de la voisine, hein, et ça te donne une pensée étrangère qu'il ne faut surtout pas avoir à ce moment-là. Et donc, c'est pourquoi c'est grave de parler au moment du tashmish. Ou bien encore, parce que quand on parle de sujet étranger à ce qui est en train de se vivre à ce moment-là, ça fait que il n'y a pas de rapprochement. Il faut qu'il y ait convergence des esprits à ce moment-là, qu'on se concentre sur la fusion du couple et pas avoir la tête ailleurs, dans d'autres choses. Si tel était le cas, ça réduit cette chose-là à un acte animal ou presque znout, comme ça c'est écrit dans des Mefarshim. Parce que dès lors que ça manque la dimension vraiment d'affection et de fusion des cœurs, c'est presque znout, même que c'est un homme et sa femme. C'est comme ça l'idée, la perception de Chazal. Et donc, znout, c'est quoi? C'est un geste bestial, tout simple. Il n'y a pas quelque chose qui unit cet homme et cette femme, ils n'ont rien à voir ensemble. Ou ils sont incompatibles, ou ils ne sont pas mariés ensemble, c'est ça qu'on appelle znout. Alors, il n'y a rien, c'est que animal, pas plus. Dans la Torah, la relation du couple, c'est très élevé, c'est fusionnel. Et s'il n'y a pas cette dimension fusionnelle des esprits et des cœurs, parce que l'esprit est préoccupé par des sujets étrangers, ben c'est grave, c'est un grave manquement. C'est pourquoi c'est sourd de parler, au point que dit Rabbi Yochanan ben Davai, au nom des Malachim, que l'enfant qui sera conçu dans ce contexte peut être sourd-muet. Soumine, aveugle. Mipnema avian, à cause de quoi arrivent des enfants aveugles? Mipnej jemistaklin botomakom. Parce que y a istaklout en cet endroit qu'il faut pas. L'homme ne doit pas regarder la herva de la femme. Et donc, s'il entrave cette mesure, il peut y avoir ce onej. Maintenant, la Gemara ramène tout un développement pour aller à contresens. C'est une question qu'on soulève au Rominou. On va opposer à ce qui a été dit une référence. La référence, c'est un récit. Shalou et Ima Shalom. On a questionné Ima Shalom, la femme de Rabbi Eliezer. C'est comme si on dit mère une telle. C'est un titre honorifique à l'époque. Une femme emblématique de l'époque des Tanaïm. On a remarqué qu'elle avait des enfants merveilleux. On lui a demandé Mipnema Banaïr Yefiefin, Beyoter. Pourquoi tes enfants sont particulièrement beaux? En tout cas, beau, je ne sais pas si ça veut dire beau, mais le Roche, il explique sans aucun défaut. Ça veut dire qu'ils sont parfaits. Des enfants parfaits. On a bien vu, à travers le passage qui précède, que les défauts arrivent parce qu'il y a eu manquement dans le comportement d'un couple. Et si les enfants sont parfaits de parfaits, ben c'est qu'ils ils se conduisent dans les règles de l'art, certainement. Donc on lui a demandé, comment ça se fait que tes enfants sont si merveilleux et parfaits? Parfaits. Alors Amralem, elle leur a dit... Et non, mais sa père, Emil, l'obétrila ta laïla. Mon mari, Rabbi Eliezer, ne me parle pas, ni au début de la nuit, velobesof à laïla. Et la bechatot à laïla, qu'au milieu de la nuit. C'est quoi parler? Parler, c'est encore une fois une manière décente d'évoquer le tashmish amita sans trop le dire crûment. Alors, ça désigne tashmish amita. Et peut-être que c'est pas juste pour détourner que Chachamim ont parlé de Sipour. Sipour veut dire converser. Mais peut-être parce que Davka, le Tashmish, se fait avec des échanges verbaux. Il y a un Sipour que le mari, il engage avec sa femme par la parole. Et donc, c'est pour ça que le Tashmish est mentionné ici, Belachon Mesaper. En tout cas, elle précise, c'était jamais au début ni à la fin de la nuit. Pourquoi ? Parce que, disent les Rishonim, eh ben, dans la rue, il y a des gens où il y a de la vie dans le voisinage, jusqu'à des heures tardives et tôt le matin. Donc un mari peut avoir une pensée d'une femme qu'il a entendu, dont il a entendu la voix. Donc on ne fait pas à ce moment-là, il faut qu'il y ait du calme. Quand est-ce qu'il y a du calme ? Au milieu de la nuit. « Ukshéou mesaper megaletefar omrasetefar » Et quand il est mesaper, ça veut dire quand oui, c'est le moment de faire tashmish amita, il découvre un tefar et il recouvre un tefar. Alors il y a plein d'explications dans les Rishonim. L'une d'elles, ça veut dire qu'il ne découvrait de l'habit de la femme que très peu. Un tefar, c'est pas beaucoup. Et aussi, ça s'entend, aussitôt découvert, aussitôt recouvert. C'est une des explications dans les Rishonim pour dire qu'il abrégeait l'acte. Ça ne durait pas. Védome alav kemish kefaoshed. Et ça semblait être comme si un shed le hantait. Comme ça, le Ran explique qu'un homme, il fait quelque chose, mais il y a un shed qui le hante et il fait ça à l'arraché vite fait. Il fait pas ça, il prend son temps paisiblement parce qu'il est hanté par un shed, d'accord ? Alors, ça veut dire que, une fois de plus, c'était fait de manière très brève par Marley. Et il m'a dit que des... Ah, pardon. Martilo Matam. Et moi, c'est certainement Ima Shalom qui dit, j'ai demandé à mon mari Rabbi Elazar, pourquoi, Matam, pourquoi tu agis ainsi? Marli m'a répondu que pour pas que mes yeux aillent, se portent sur une autre femme. Que veut dire ses yeux? Mais il est là, dans le noir, avec sa femme, il n'y a personne d'autre. Que veut dire ses yeux? Ses yeux, c'est les yeux de l'esprit, l'imagination. Pour pas que mon imaginaire se perde sur une autre image, une autre personne que toi. Ce qui est assourd et très grave, de penser à une autre femme que la sienne au moment du Tashmish Amita. Alors il prenait toutes ces précautions, parce que c'est fait d'une manière, comme ils disent les Rishonim, je vais vous lire comment le Roche, il exprime ça. Amarshava b'isha acheret b'isha Tashmish que Rovin Abanim Nesad Mamzerut, les enfants sont. Oui, j'ai pas. Excusez-moi, je recherche. Voilà. La phrase que je recherche, c'est la suivante. Mitor Shelo Meshamesh Ela Behema, Velo Bekalut Rosh. Comme il s'appliquait à faire le Tashmish Amita qu'avec crainte, une extrême crainte, et pas avec légèreté. En Belibo Machashava Cheret. Alors, ça n'invite aucune pensée étrangère dans son cœur. C'était une précaution à laquelle il voulait s'astreindre. Et c'est ce qu'il fait. Et donc. Et il termine. Kedesh shelo eten etenai bishacheret venimtsu banai baini de mamzerut. Mes enfants viendraient à mamzerut. Les enfants ne sont pas mamzer alachiquement s'ils sont issus d'un couple qui est conforme. Ils sont mariés conformément et il n'y a pas de mamzerut. Mais il y a un défaut comme chez un mamzer, même chez l'enfant d'un couple légal. Mamzerut, c'est quand le couple n'est pas compatible. Ils n'ont rien à faire ensemble. Lui, il est interdit. Ils sont interdits par karet ou chiyuv mita. Là, il y a ni chiyuv karet ni mita. Ils sont mariés kadat vekadin. Et malgré tout, il y a un chashash mamzerut. Ça veut dire une empreinte de mamzer sur l'enfant. Que la nature d'un mamzer, on peut la retrouver chez cet enfant. La nature du mamzer, c'est écrit dans d'autres gmarot, que ça fait un enfant qui est effronté, etc. Et donc, ça peut advenir parce que simplement le mari avait frôlé le znout. Comment il a frôlé le znout? Par la pensée. Pourtant, il est avec sa femme, qui lui est permise, mais par la pensée, il est avec une autre. Ça serait un chachach znout, ça donnerait un enfant qui est un brin mamzer. D'accord? C'est ça l'idée. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a vu à travers tout ce récit? C'est que, ben, au moment du Tashmish Amita, ils étaient mesaprim. Et nous, on a dit qu'il ne faut pas parler. Au point que les enfants issus d'une telle relation, ça peut être un enfant qui est, il aime l'akashia. Habe mile de tashmish, habe mile acharaniyata. Ça dépend de quoi il parle. Si ce sont des sujets relatifs à, au moment, ce qui se vit à ce moment-là, ce qu'on appelle le tashmish, là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est milah arniyata, des propos étrangers à ce qui se vit à ce moment-là, hein, là, c'est clairement un problème, c'est ce qu'on a dit plus haut. Pourquoi ? Ou parce que ça peut donner des pensées étrangères, ou parce que, comme on l'a dit, ça déconnecte l'esprit, et quand l'esprit il est ailleurs, alors il n'y a pas convergence des cœurs entre les deux. Il faut se concentrer l'un sur l'autre pour fusionner, et pas être par l'esprit ailleurs, il n'y a que les corps qui sont unis. Ça, c'est presque znout. Maintenant, que veut dire « milé détachmich » ? Il y a deux traductions ici dans les Rishonim, de ce que je vois. Il y a le « ran ». « Ran » dit « milé détachmich charé kedele ratzota ». Ça, c'est moutard pour être « meratzota », pour donner le ritsui nécessaire pour que la femme se sente partie prenante, qu'elle soit séduite. Alors l'homme, il doit être « mekarevota » par des paroles qui rapprochent, qui réjouissent. Et ça fait partie de l'entrée en matière. Et c'est pourquoi ça appartient au déroulement de la mitzvah. Et même chez les Tanaïm, ça existait. Et ça fait partie de la mitzvah, parce que le but, c'est pas Chasvé Shalom. Faut comprendre que, je le dis en un mot au nom du Maharal, plus il y a fusion des cœurs, plus cette chose est kadosh. D'accord ? Plus il y a union et fusion des cœurs, plus le Tashmish, il est kadosh. C'est les paroles du Maharal. Et si la nature est faite pour que la femme ne se sent pas emportée naturellement de manière aussi facile qu'un homme, alors il faut que ça passe par tout ce qui est nécessaire, entre autres des paroles qui réjouissent, qui ouvrent le cœur, qui rapprochent, etc. Alors c'est ça, que dès les ratzota, ça fait partie de la mitzvah. C'est pas permis, c'est même bien. Maintenant, dans un cas où il y avait un froid, alors là, dans la halakha, c'est écrit que c'est chayav, il est obligé de parler pour dépasser ce froid et qu'il y ait une sorte de réconciliation. Sinon, quoi ? Ça ne peut pas se faire. Quoi ? Le cœur, il va s'ouvrir alors qu'on est en froid, ça ne marchera pas. Là, c'est une obligation de parler kedele ratzota, de parler intelligemment de manière à lui faire cet apaisement qui est nécessaire avant de pouvoir être meratzé au sens de rapprochement. D'après le Rosh, nous dit c'est quoi milé des tashmish chez charé, c'est permis les arbot tavato, s'il y a besoin d'éveiller l'instinct et le désir qui va permettre une plus grande fusion, ça aussi c'est permis de parler, mais néanmoins les poskim précisent sans y vulper, parce que ça en soi c'est un issur. Amar Rabbi Yochanan, zou devrei Rabbi Yochanan ben Deavay, bien Rabbi Yochanan le Amora, il nous dit ce qu'on a vu plus haut, c'est les paroles de Rabbi Yochanan ben Deavay le Tana. Aval amrou chachamim, mais nos maîtres ont dit En alacha ke Rabbi Yochanan ben Deavay. Et là, seulement, kol ma she'adam rotze la'asot be'ishto osé. Ce qu'un homme veut faire avec sa femme, il peut. Mashal levasar abba mibet atabar. On va donner le mashal comme de la viande qu'on a achetée chez le boucher. Ratza le'ochlo be'melach ochlo. Si je veux le manger salé, je le mange salé, sans le cuire. Tzali, je veux le manger rôti, grillé, ochlo. Mevushal cuit, ochlo. Chalouk bouilli, ochlo. Ken. Idem pour un poisson qui vient du pêcheur. Ça veut dire que quelqu'un qui s'est marié, il est autorisé à s'unir avec sa femme dans la manière qui lui convient. Que ça veut dire ? Alors les poskim nous disent, Chachamim ne sont pas opposés sur les quatre mesures que Rabbi Yochanan ben Deavay avait mentionnées. Ils sont d'accord sur trois des quatre. C'est sur le sujet de Afichat Shulchan qu'il y a Machloket. Mais les trois autres choses, ne pas regarder ou ne pas embrasser sur, ou bien le sujet de parler, ces trois sujets, bien sûr, que c'est la halakha comme ça, et c'est repris dans le Shulchan Aruch, c'est que par rapport à la position qu'on a appelée Afichat Shulchan, alors ce sujet-là, Chachamim sont parfaitement d'accord que ce n'est pas l'idéal. D'imposer à la femme une position qui n'est pas agréable pour elle, ou qui est, etc. Ou bien, chez l'Okedarka aussi, c'est sûr que ce n'est pas idéal, même si certains vont dire que c'est permis, à condition qu'il n'ait pas motisé Ralevatala, comme c'est écrit dans le Rambam. Le Ran nous le rappelle, parce qu'il y a un problème de Zeralevatala, si c'est bien chez l'Okedarka, littéralement. Donc on avait trois niveaux dans Afichat Shulchan, mais ce qui a été interdit par Rabbi Yochanan ben Deavay, et est permis d'après Chachamim en la matière, que sur le sujet de Afichat Shulchan. D'accord ? Pour les trois autres restrictions, ça reste la halakha, comme ça a été dit plus haut, que c'est interdit. Maramemar. Mais dans tous les cas, ce n'est pas Midat Rassidut, mais le Rambam,
c'est
si je me...
C'est interdit ou c'est permis?
Les trois autres choses, c'est interdit. Il n'y a pas de machloket. Quand on dit, si Chachamim ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord sur le sujet de Afikat Shulchan. Les trois autres choses, ils sont d'accord. Maintenant, Afikat Shulchan, chacun selon sa traduction. Il y avait trois niveaux de traduction dans les Rishonim. Alors, même si quelqu'un il va dire, Afikat Shulchan, c'était bien chez Lokedarka. Et ici, on dit qu'au final, c'est permis comme Chachamim. Mais sans Otsad Zera Levatala. Parce que la semence n'est pas exploitée, puisqu'il n'y a aucune chance de... Ensuite, Amar Amemar. Amemar nous dit, « Man malachi acharet ». Qui sont ces malachi acharet qu'a mentionné Yohanan ben Dehavai? Ben, ce sont Rabbanan, ce sont les Chachamim de son époque. « Deitema malachi acharet ». Parce que si tu dis que ce sont les vrais anges, mamash, « Ama yama Rabbi Yohanan en alacha, ki Yohanan ben Dehavai ». Comment Rabbi Yohanan va dire, « On ne fait pas l'alacha » comme ce qu'a dit Yochanan ben Dehavai. Mais lui se revendique au nom des anges. Et qui de mieux que les anges pour nous dire le Teva, est-ce que tel Bia occasionne tel défaut chez l'enfant? Mieux que les Malachim. Ha'inu bekiye betsura tavlad et fei. Les anges sont mieux placés, ils sont plus connaisseurs que Chachamim en général sur ce genre de questions. Que la tsura d'un Vlad. S'il y a un défaut dans le Vlad, on sait attribuer ça à tel mécomportement. Mais les malachim sont les mieux placés pour statuer. Et donc, pourquoi tu ne fais pas la halakha comme ce qu'a dit Yohanan ben Dehavai? Et donc, forcément, Amemar dit, l'intention, ce n'était pas littéralement des malachim à charrette, mais c'était des chachamim qui ressemblent à malachim à charrette par rapport à leur ligne de conduite. Amai karou lehu malachim à charrette, des mitzaynek et malachim à charrette. Ils sont tellement metsuyanim, ils se distinguent du standard. Ils ont un mode de vie très élevé de kdusha et d'élévation, qui est en marge du commun des mortels, on va dire, même chez les Bnei Israël, ils sont bien au-dessus, si bien qu'on les assimile à des anges, d'accord? Voilà. Mais c'est en fait Chachamim de l'époque qui ont confié à Rabbi Yochanan ben Dehavai ses enseignements. Il y a d'autres Chachamim opposés, et il y a matière à discuter, puisque c'est Chachamim contre Chachamim, c'est pas Chachamim contre des Malachim. Et donc la Halakha, elle est retenue comme les Chachamim, opposé à ceux de Yohanan ben Dehavai. Mais que pour un des quatre points, comme on a conclu, Haï de Atai le Kame de Rabbi. Une histoire, il y avait une femme qui est venue se plaindre chez Rabbeinu Akadosh. Amralo, elle lui a dit, Rabbi, mon maître, Ararti lo shulchan ve'afacho, je vais dresser la table et il l'a renversée. On est d'accord maintenant que c'est un langage détourné pour évoquer le Tashmish Amita. Ça veut dire, moi j'espérais comme un couple normal, que ça se passe normalement. Et lui, il a fait Afikat Shulchan, et il y aura une fois de plus, Machloket Rishonim, comment on traduit Afikat Shulchan? Comme plus haut, ici aussi. Alors, Amar, là, il lui a dit, Biti, Torah et Tirater, Vani, Maeselar, la Torah, elle t'a autorisé à ton mari, et c'est pas moi qui vais interdire, je peux rien faire à ton mari, je peux pas lui dire qu'il est en tort. D'accord? Alors maintenant, des Rishonim conviennent que ça parle d'une situation où c'était consenti. C'était pas de force qu'il lui a contraint cette position ou cette... Non, c'était consenti. Et malgré tout, elle est venue questionner est-ce que c'est conforme à l'Pitora. Il a dit, je peux pas dire que c'est assourd. Et bien sûr que ce sera pas conforme au sens idéal du terme. Ça, c'est sûr que non. Il y a d'autres références. On voit que c'est sûr que c'est pas conforme, ne serait-ce que inversion, Afikat Shulchan dans le sens que c'est l'homme qui est en bas et la femme au-dessus, rien que ça déjà, c'est pas conforme. Même dans le Shulchan Aruch, c'est retenu. Mais en termes de issur formel, que moi je vais m'interposer, je vais réprimer ton mari, je vais le sanctionner au nom de la loi, non, il n'y a pas de recours, je peux rien faire. Haïd et Atai, les Kamé des Rav. Histoire similaire, une génération après, à l'époque de Rav. Une femme qui est venue se plaindre chez Rav Amralo, Rabbi, mon maître, Arar Tilo Shulchan va Facho. Idem. Amar Maishna Min Benita. Il a répondu en deux mots. Quelle différence le poisson? Comme le poisson, je l'ai acheté, je peux le cuisiner à mon goût. Alors la même chose, je peux rien faire. C'est pas assourd. Voilà. Ensuite, Velot Atourou Achare Levavchem. Vachare Enechem. Bon, alors dans cette phrase, il y a mise en garde par rapport à une tendance liée aux znout, clairement. Mais d'habitude, Chazal, ils disent, c'est ça, Acharei Enechem. Les Vavrem, ils le traduisent, c'est Minout. C'est le cœur qui vagabonde dans des réflexions et des philosophies qui portent vers la Minout, c'est la Picorsout. Et Acharei Enechem, c'est tout ce qui est relatif à voyeurisme, donc znout. Mais Chazal, ici, ils veulent comprendre que même le Levavrem en rapport avec znout. Comment? Mikan Amarabi, de l'Arabi, il a établi. Un homme, il doit pas boire ce verre en regardant dans un autre verre. C'est encore une manière imagée pour dire avoir un rapport avec sa femme et penser à une autre. Amaravina, Ravina, il précise, même si toutes les deux sont ses femmes qui lui sont permises, mais au moment où il est avec l'une, il pense à l'autre. C'est grave. Maintenant, Ubaroti Mikem Aposh Amordim Aposhimbi, Hachem dit, je vais sélectionner. Birour, trier, retirer du Ham Israël les rebelles et fauteurs. Qui sont-ils? Amar Rabbi Levi dit, Elou Benei Teshamidot, ce sont les Benei Teshamidot, les gens de ces neuf normes qu'il faut éviter. Il y a neuf situations ou contextes où le rapport entre un homme et sa femme, il est à bannir, il est proscrit, minadin. Et l'enfant issu de ça, il s'appelle Mored ou Pocheya, certainement parce qu'il est de cette nature-là, d'être rebelle à la Torah. Et d'autres disent, c'est qui les Bnei Teshamidot? Ce n'est pas les enfants issus de cette union, c'est les parents eux-mêmes. Et on les appelle Bnei Teshamidot par rapport à leur comportement. Comme on dit, quelqu'un qui fait quelque chose, on l'appelle Ben. Ça veut dire, je n'ai pas d'exemple tout de suite, mais ça existe comme ça, que le Ben veut dire, pas le fils d'eux, mais ça veut dire celui qui est digne, qui est capable d'eux. Alors, Bnei Teshamidot, Bnei Asenat Mishgaar, c'est des abréviations pour servir de signe mnémotechnique. Aleph, c'est Anoussa. Sa mère, ça fait Senua, etc. Alors, on va développer. Bnei Emma, Bnei Anoussa, celle de la crainte ou celle de la femme qui est forcée. Ça veut dire que si un homme, il impose une crainte à sa femme, telle qu'elle ne peut pas refuser le tashmish, ou bien il la contraint au tashmish, c'est ça, Bnei Anoussa, ben l'enfant, eh ben, il est moré des pocheya. Et c'est sûr que c'est une situation interdite, fallait pas. Ensuite, Bnei Senua, la femme que le mari déteste. Il l'aime pas, alors il peut pas cohabiter avec elle. C'est Assur Minadin. Je vous rappelle, l'idée, c'est que dans un couple, ça se fait que dans un contexte fusionnel, sincère, vrai amour sincère, comme je dis au nom du Maharal, plus il y a fusion des cœurs, plus c'est kadosh. Et si il y a moins, alors il y a moins, c'est moins kadosh. Mais le pire, c'est quand c'est dans une situation où le cœur ne peut pas être là. C'est pas authentique, c'est pas sincère, il n'y a pas le cœur. Et si on est dans une situation où il ne peut pas y avoir le cœur, alors c'est assourd. C'est ça qu'il faut entendre dans tous ces cas qu'on est en train de citer. D'accord? Si elle est contrainte, il n'y a forcément pas de cœur. Donc c'est que au niveau animal, bestial, c'est pas ça. Ça, c'est même assourd. Ou bien, c'est noix, il n'y aura aucune fusion. Et il la déteste. Donc quoi? Il veut juste exploiter son corps. C'est animal, c'est comme znout, oublie. Bnei Nidouy. Nidouy, ça peut être ou bien quand elle est nida, d'après une explication, ou bien si elle est excommuniée. Elle a été décrétée par le Bedin, Bnei Nidouy, ou lui ou elle. Et alors, ils n'ont pas le droit de cohabiter d'après ce mandamar. C'est une question ailleurs. Mais ici, c'est ce que pense Rabbi Levi. Et donc, comme la cohabitation est interdite, alors il y a aussi cet aspect qu'il s'appelle Mordim et Pochim. Ensuite, Bnei Temura. Temura, c'est l'échange d'eux. Ça veut dire il est avec sa femme, il pense à une autre, même si l'autre, c'est sa femme également. Bnei Meriva, celle de la querelle. Les enfants de la querelle, ça veut dire ils étaient en froid dans le couple et malgré tout, ils n'ont pas essayé de réconcilier, de dépasser ce différent. Dans ce contexte, ils ont eu un rapprochement, c'était assourd. Bnei Shichrut, c'est quand il y a Shichrut, où l'homme ou la femme est sous l'effet du vin. Et là aussi, une fois de plus, ils disent de Mefarshim, ben, le cœur ne peut pas être là. C'est que un niveau animal, c'est tout. Il n'y a pas le cœur et l'esprit, puisque la tête, elle divague. Donc, il n'y a pas convergence des esprits et des cœurs. Il n'y a pas de fusion. Ensuite, Bnei Grushat Alev. Grushat Alev, c'est qu'il a l'intention de la divorcer. Déjà dans son cœur, elle est déjà divorcée. Il ne l'a pas encore concrétisée, mais il a le projet d'eux. Et bien, même s'ils sont en bon terme maintenant, s'il prévoit de la divorcer, il ne peut pas cohabiter avec elle. C'est malhonnête. Pas seulement c'est malhonnête, c'est pas un rapprochement sincère. Et donc, il manque la dimension authentique de la chose. Non. Bnei Irvuvia, ce serait... D'après une explication, qu'il n'y a pas eu de discernement entre le zéra d'un précédent mari et le zéra de ce mari. Si jamais il y avait procréation et que la femme était enceinte, on ne saurait pas dire, par exemple, elle vient d'être divorcée, elle a été remariée. Mais non, il y a 3 mois de Havrana qu'il fallait attendre. Il y a Irvouv. Alors, si ils ont cohabité dans un contexte pareil, c'est aussi Amordim va Pochimbi. Ensuite, Bnei Chatsoufa, c'est quoi Chatsoufa, la femme effrontée? Eh bien, effrontée, ça veut dire qu'il réclame ouvertement le Tashmish Amita à son mari. Une femme juive, elle a une décence et une pudeur qui fait que elle ne doit pas exprimer ouvertement ce besoin auprès du mari. Ve'amar Rabbi Shmuel Bar Nachman, il demande à Gemara, mais pourtant, Rabbi Shmuel Bar Nachman, il nous a dit a priori le contraire. Il a dit au nom de Rabbi Yonatan, Kol Adam She'ishto Tovato, une femme que c'est tout homme, que sa femme le réclame, c'est-à-dire qu'elle qui en attente et qui fait appel au mari, il aura des enfants d'un tellement haut niveau que même à la génération de Moshe Rabbeinu, qui est le Dor Dea, eh ben on n'en trouvait pas chez Neymar, comme il est dit. On a cherché des gens qui étaient Chachamim et Nevonim. C'est ce qu'on a demandé à trouver. Et quand on les a cherchés et trouvés, qu'est-ce qu'on a trouvé? Moshe Rabbeinu dit, j'ai pris les chefs des tribus. Veloktiv Nevonim. Le qualificatif Nevonim n'était pas au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé des gens de ce niveau-là qu'on puisse qualifier de Nevonim. Vektiv. Et pourtant, à propos de Yissachar, c'est écrit Yissachar Hamor Garem. Vektiv Mible Yissachar Yode Bina Laitim. Oui, les gens de Yissachar sont de ce niveau de Bina. Ils connaissent le Sod Haïbour, c'est ça, Yode Bina Laitim. En tout cas, ils sont de ce niveau de Bina. C'est un niveau extrême. Et donc, là, nous a enseigné ce Chacham, que c'est une bonne chose que ça provienne par une incitation de la femme, et non pas le contraire. Ce n'est pas l'incitation première du mari. L'incitation première de la femme, c'est le top. Ça donne des enfants du plus haut niveau spirituel, comme on n'en a pas trouvé à l'époque de Moshe Rabbeinu. Alors, est-ce que c'est bien qu'elle qu'elle se manifeste pas, ou au contraire, elle doit se manifester? Elle manifeste son attente ou non? Elle s'appelle Khatsoufa ou non? Contradiction. Réponse, Haïd et Meratia Artsouye. Ça, c'est quand elle est meratzé, c'est-à-dire elle manifeste son attente auprès du mari par toutes sortes de moyens qu'elle a, par exemple, de s'arranger, d'attirer l'attention, etc., mais sans le dire ouvertement. C'est un manque de décence qu'elle exprime ça ouvertement. Et donc, ça fait partie de la tzniut d'une bat Israël de ne pas l'exprimer, de ne pas le demander ouvertement, mais elle a pas seulement, c'est bien, pas seulement, ça peut venir d'elle, c'est même mieux. Pourquoi c'est même mieux? Le Maharal, il dit que si ça vient d'elle, c'est elle qui est en attente, qui a ce besoin-là, et que le mari, il va vers elle pour combler ce besoin à elle, alors c'est d'un tellement haut niveau, parce que c'est le Chomer qui se rattache à la Tzoura. La femme, c'est plus le Chomer, et l'homme, c'est plus la Tzoura. Et donc, ça veut dire que le Chomer se soumet à la Tzoura. Ça donnera un enfant dont la Tzoura est beaucoup plus prédominante que le Chomer. C'est quoi Chomer et Tzoura? C'est les deux tendances, matérielles et spirituelles. Et donc l'enfant aura une prédominante par rapport à sa Tzoura, plus que le Chomer qui a chez chaque individu. Ça, c'est en bref pour simplifier. Je n'ai pas expliqué avec le pasouk de Yissachar. Ça fait allusion à Léa quand Yaakov revenait du champ. Alors, Yissachar Chamor Garem. Chazal dit, c'est le Chamor qui a été Gorem, la venue de Yissachar sur terre. Parce que quand Yaakov, il revenait du champ, alors l'âne, ou il s'est dirigé vers le Oel de Léa, ou bien il a émis, et donc Léa, elle a remarqué que Yaakov arrive, et elle allait au-devant de Yaakov lui dire, Elaï, ta voix, Laïla, Kisachor, Secharticha, Bedouda, Ebener. D'accord ? Elai tavo alaila, ça veut dire quoi ? Qu'elle a fait une avance à Yaakov, sans dire le mot tashmish. Tu viens manger chez moi, c'est ça que ça veut dire, parce qu'il y avait deux oalim, il y avait le oel de Rachel, le oel de Léa. Donc tu viens chez moi, ça veut dire bien sûr qu'il y aura le repas et tout, et automatiquement il y aura aussi le tashmish. C'est sous-entendu, du moment que c'est que sous-entendu. Alors ça passe, et mieux que ça passe, c'est idéal dans la mesure où l'avance vient de elle. Alors ça donne un enfant, comme il n'y a pas eu tous les autres. Le plus au niveau de Bina, c'était Issachar parmi les Shvatim. Donc c'est ça qu'on retient. Adran alaf elu mutarin, adran alaf elu mutarin, adran alaf elu mutarin. Zagorim.